franceinter.fr.
Et à la une de la science, la matière noire toujours introuvable malgré des détecteurs de plus en plus sensibles. Les scientifiques de la collaboration internationale Xénon dévoilent cette semaine leurs résultats et ils ne parviennent toujours pas à voir la moindre trace d'une particule de matière noire dans les immenses cuves de Xénon enfouies sous la montagne du Grand Sasso en Italie. Et c'est en soi une information. Pour en parler, Dominique Terre, c'est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut Mines-Atlantiques. C'est au laboratoire Subatech et vous êtes responsable France du projet Xénon. Avec nous également Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Dominique Terce, première question, pourquoi choisir maintenant de communiquer pour dire en gros que vous n'avez rien trouvé sur la matière noire? C'est drôle ça comme initiative, non?
Oui, voilà, on a choisi de divulguer ces résultats, c'est très important. On a un super résultat, donc on a construit un détecteur plus grand que tous ceux qui ont été construits jusqu'à présent, une nouvelle génération d'instruments, et on voulait montrer à la communauté que notre instrument fonctionnait bien. On a atteint la sensibilité visée et on rapporte ici donc de résultats qui sont extrêmement positifs pour la communauté, dans la mesure où on a un nouveau record du monde là pour essayer d'observer cette matière noire qu'on n'a toujours pas réussi, bien sûr, à mettre en évidence.
Alors Philippe Hénarejos, on va revenir avec vous à la base. Qu'est-ce qu'on cherche exactement à détecter avec Xénon 1T ?
On cherche à détecter une forme de matière qui serait exotique et qui remplirait pas mal l'univers, si vous voulez. Ça vient d'observations qui ont été faites depuis il y a très longtemps, même au début du XXe siècle, qui sont prolongées tout au long du XXe siècle, et qui montraient que finalement les lois de la gravitation que nous avons, celles de Newton et celles d'Einstein, semblaient ne pas décrire correctement le comportement de certaines galaxies ou de certains amas de galaxies à de très grandes distances. C'est-à-dire que les galaxies tournaient trop vite. Il manquerait de la matière selon ces lois pour qu'elle tourne à la vitesse requise. Donc, il y a eu plusieurs pistes, je ne vais pas les énumérer ici. Et aujourd'hui, l'une des pistes sérieuses pour cette matière manquante serait une matière donc exotique, c'est-à-dire rien de ce que l'on connaît, les électrons, les atomes, tout ça. Quelque chose d'autre, des particules qu'on appelle des WIMPs, donc ces particules qui interagissent très peu, c'est-à-dire qui collisionnent très peu avec les atomes existants, mais on espère un petit peu, et c'est pour ça qu'on fait des détecteurs comme ça, avec une certaine matière pour essayer de voir ces chocs entre cette matière noire et la matière ordinaire que nous connaissons. Mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile, et on attend très peu d'événements, et si au final ces WIMPs existent, on aura la réponse à la question pourquoi ces galaxies tournent-elles trop vite et pourquoi les étoiles autour de certaines galaxies tournent trop vite alors qu'elles sont très loin du centre. Voilà.
Dominique Terce, d'un point de vue technique, comment il fonctionne ce détecteur qui est censé voir la matière noire ?
Alors c'est un détecteur super innovant avec une nouvelle technologie. Donc on utilise du xénon liquide pour essayer d'observer l'interaction de la matière noire avec la matière ordinaire. On est donc une communauté de scientifiques spécialisés en instrumentation, en expérimentation pour la physique des particules. Et nous, donc le côté aussi qui est très intéressant dans cette recherche, c'est bien sûr d'essayer d'observer quel serait le type de particules qui sera à l'origine de cette matière, sachant que parmi toutes celles qu'on a pu observer jusqu'à présent, on n'en a aucune qui est un bon candidat pour expliquer la matière noire. Oui. Donc on a au niveau techno un développement super ambitieux avec un détecteur où on expose plus d'une tonne de xénon liquide. C'est un développement qui met en avant beaucoup d'innovations au niveau des technologies associées, bien sûr.
Concrètement, le xénon, il sert à quoi ?
Alors, c'est la cible. Donc, le xénon, il est sous terre. On a la montagne du Grand Sasso en Italie au-dessus de nous pour nous protéger des rayons cosmiques. Et puis, on construit un instrument avec de la matière ordinaire. Donc pour le support, le cryostat, etc. Donc on a ici une logique très poussée de contrôle de la radioactivité naturelle présente dans les matériaux utilisés. Et l'objectif, c'est de traquer toutes les interactions qu'on comprend, d'essayer de les réduire au maximum pour limiter le bruit de fond qu'on a quand on expose ce détecteur à la présence de matière noire et essayer d'observer des interactions anormales, par rapport à toutes celles qui sont présentes par ailleurs et qui viennent de la radioactivité naturelle et de tous les événements naturels qui existent sur Terre.
Alors si votre cuve est sous Terre, ça veut dire qu'on peut trouver de la matière noire absolument partout autour de nous ?
Ah bien sûr. Oui, d'accord, que la matière noire interagit très peu. Donc la Terre traverse la matière noire le système solaire traverse la matière noire, notre galaxie traverse la matière noire. C'est pas la matière noire qui vient percuter la Terre, c'est la Terre qui vient percuter la matière noire, et elle est présente tout autour de nous constamment, tous les jours, depuis l'origine de la Terre.
Est-ce que vous avez déjà détecté quelque chose dans cette cuve ?
Alors, on n'a pas détecté quelque chose de significatif dans cette cuve. C'est-à-dire qu'on se bat contre le bruit de fond, donc on se bat pour essayer de réduire au maximum la contribution de toute la radioactivité naturelle en particulier, et de toutes les interactions qui pourraient mimiquer l'interaction de la matière noire avec la matière ordinaire.
C'est une expérience qui prend du temps, alors ?
Donc c'est une expérience qui prend du temps. Donc on a exposé là nos 34 premiers jours avec Xénon Hinton. On a été amené à arrêter l'exposition au bout de 34 jours suite à un tremblement de terre qui a eu lieu le 18 janvier au Grand Sasso. Et puis là, donc depuis, on a eu une petite période de maintenance, on est reparti en observation, on traque la matière noire, donc on espère avoir des résultats de nettement meilleure qualité dans quelques mois maintenant.
Philippe Hénarejos.
En profitant de cette observation plus longue, bien sûr.
Et alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que pour chercher ces interactions, il y en a des tas d'interactions qui vont... Alors, on les limite en s'enterrant sous une montagne, mais il y en a d'autres qui peuvent effectivement imiter. Et ce qu'il va falloir trouver, c'est l'interaction qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, il va falloir soustraire tout ce qu'on voit pour se dire, à un moment donné, il y a une ou deux interactions par an qui sont arrivées et qui sont du fait de la matière noire. Donc, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai une question, c'est que pour l'instant, il y a eu des expériences de ce type qui ont été menées avec des détecteurs d'une certaine sensibilité. Là, avec celui que vous avez construit, si vous arrivez à observer pendant un an, est-ce que vous aurez un résultat probant ? Est-ce que vous pourrez trancher ?
La question est pour vous,
Dominique. On a déjà un résultat probant avec les 30 premiers jours d'observation. C'est-à-dire qu'on a déjà repoussé les limites qui avaient été atteintes jusqu'à présent par les autres instruments qui ont été construits, par les autres expériences présentes sur Terre. Et bien sûr, plus le temps passe maintenant, et plus ces limites vont descendre. Donc on va rapporter de résultats très importants pour la communauté. On espère attraper la matière noire, bien sûr. Mais même si on ne l'attrape pas, on aura des résultats très importants, justement, pour limiter le nombre de modèles qui peuvent être imaginés pour expliquer ce qu'est la matière noire.
Alors, concrètement, pour vous, qu'est-ce que ce serait une détection positive, une réussite ? Ça ressemblerait à quoi ?
On aurait un excès significatif de recul mesuré avec notre expérience par rapport au bruit de fond attendu. Donc, on aurait, dans un premier temps, le doute, un doute de plus en plus petit sur le fait que la matière noire s'observe, et puis ensuite on pourrait, en exposant plus longtemps, commencer à comprendre ses propriétés, donc essayer d'évaluer la masse de cette particule, essayer d'évaluer avec une très grande précision l'intensité de son interaction avec la matière ordinaire, donc comprendre quelle est la nature de ces particules dans l'univers.
Donc le mystère reste entier pour l'instant, mais les appareils sont là et assez performants, hein, Philippe.
Complètement, le mystère est total, et on espère quand même avoir un résultat. Alors même une non-détection, ça serait un beau résultat, parce que ça voudrait dire peut-être que... Alors je sais bien qu'il y a encore des modèles qui permettent d'imaginer des WIMS qui interagiraient un peu moins, etc. Mais on va commencer à avoir du mal à soutenir cette matière noire exotique.
Dominique Théal, les prochains résultats, très vite, c'est pour quand ?
Alors là on a un planning en plusieurs étapes. Donc on a les prochains résultats avec l'exploitation de Xénon Hinton qui sont prévus d'ici une année, je pense. Et puis on a aussi donc un programme avec bien relayé par le CNRS, de nouveaux laboratoires français qui rejoignent la collaboration. Et puis un programme d'upgrade avec Xénon Hinton qui devrait commencer à exposer à partir de 2019 au Grand Sasso la matière noire aussi, avec cette fois-ci encore 10 fois plus de xénon, donc une cible 10 fois plus volumineuse. Et on l'espère, la matière noire au bout.
Eh ben on l'espère aussi, ce serait une belle une de la science. En tout cas, avoir une émission entière, on pourra largement y consacrer du temps. Merci beaucoup à vous, Philippe, à très bientôt. Et Axel,
à bientôt.
À demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, réduire la pollution au dioxyde de soufre aux États-Unis permettrait d'augmenter les pluies au Sahel. Ce drôle d'effet domino est démontré aujourd'hui par une équipe de l'Université de Columbia. En plus de participer à la pollution de l'air, le SO2, dioxyde de soufre dans l'atmosphère, augmente la réflexion des rayons du soleil et donc diminue l'évaporation de l'eau. En menant indépendamment 3 simulations sur les mouvements des masses d'air globales, les chercheurs montrent qu'un arrêt total des émissions de SO2 aux États-Unis augmenterait de 10% les pluies dans le désert du Sahel à l'horizon 2100. Sans le savoir, l'homme a construit une barrière électromagnétique efficace autour de la Terre. La NASA vient de découvrir que les ondes radio très basse fréquence, utilisées notamment par l'armée pour les communications sous-marines, en diffusant dans les hautes couches de l'atmosphère de notre planète, nous protègent de certaines radiations venues de l'espace. Cet effet très léger, enregistré par le MIT, montre une réduction significative du nombre d'électrons très énergétiques qui arrivent sur Terre. Des tests sont prévus pour diffuser ces ondes de très basse fréquence directement dans l'atmosphère et ainsi vérifier et quantifier cette découverte. Et puis il s'appelle Selam, il s'agit du bébé australopithèque qui nous aide à comprendre l'apparition de la marche dans la lignée humaine. Le fossile de ce jeune ancêtre mort à l'âge de 2 ans, découvert en Éthiopie en 2000, vient d'être complètement nettoyé et analysé par une équipe américaine. Les chercheurs montrent que malgré son âge très ancien, 3,3 millions d'années, sa colonne vertébrale était adaptée à une bipédie partielle. Cette analyse fine de la structure et des liens entre ses vertèbres et ses côtes a été rendue possible grâce à l'accélérateur de particules de Grenoble, une publication qui repousse de presque 1 million d'années l'apparition de la marche chez les hominines. Pascal Pic, un commentaire, s'il vous plaît.
3 millions 2, c'est un très beau squelette, mais 3 millions 2, c'est à mi-chemin entre les origines des bipédies et l'homme.
On marchait déjà avant?
Ben oui, ben, Toumaï, Aurorine, donc les bipédies, j'insiste, les bipédies sont beaucoup plus anciennes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est des détails autour d'une petite controverse concernant la relation entre le haut du bassin et le bas de la cage thoracique. On a longtemps dit que chez Australopithèque comme Lucie, parce que Selam appartient à la même, au même groupe qu'on appelle Australopithecus afarensis, n'avait pas de taille. Donc ce qui accentuait cette démarche chaloupée avec des rotations du bassin et des hanches. Là apparemment, il semblerait que nous ayons une bipédie plus affirmée. Donc certainement, on peut dire une marche peut-être plus affirmée que nous le pensait chez Australopithèque, mais les bipédies sont bien plus anciennes.
Allez, les singes, les politiques et les robots, c'est avec vous dans un instant.